Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. To Go, Les Libraires et Espace Art Actuel. Au programme, tension artérielle, aussi appelée hypertension. Le choix d'Émilie Monet. Et Penser autrement, la pornographie. Bonne écoute.
Tension artérielle, aussi appelée hypertension. Un texte sans auteur, paru le 31 mai 2023 dans To Go. Surveillez votre pression artérielle. L'hypertension artérielle est le plus important facteur de risque de l'AVC et un des principaux facteurs de risque des maladies du cœur. On parle d'hypertension artérielle lorsque la pression artérielle augmente dans vos artères, obligeant ainsi votre cœur à faire plus d'efforts pour pomper le sang à travers les vaisseaux sanguins. Il est important de faire vérifier votre pression artérielle de façon régulière par votre fournisseur de soins. Qu'est-ce que la pression artérielle? La pression artérielle est la mesure de la pression ou de la force qu'exerce le sang contre les parois de vos vaisseaux sanguins appelées artères. La lecture de votre pression artérielle repose sur deux mesures. Le nombre supérieur représente la force exercée lorsque le cœur se contracte et expulse le sang, systolique, à travers les artères, et le nombre inférieur est la pression la plus basse au moment où le cœur se détend entre deux battements, diastolique. Il y a trois différentes catégories de pression artérielle. Risque faible, moyen et élevé. Veuillez consulter votre médecin ou dispensateur de soins pour obtenir une mesure précise de votre pression et découvrir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Catégorie de pression artérielle. Catégorie systolique, diastolique. Et risque faible, 120 sur 80. Risque moyen, 121 à 134 sur 80 à 84. Risque élevé, 135 et plus sur 85 et plus. Il y a certaines exceptions à cette catégorie. Si vous êtes atteint de diabète, la lecture associée à la catégorie du risque élevé est légèrement inférieure. Votre pression artérielle devrait être inférieure à 130 sur 80. Veuillez consulter un dispensateur de soins si votre pression artérielle est supérieure à cette valeur à plusieurs reprises. Qu'est-ce que l'hypotension artérielle? L'hypotension artérielle survient lorsque la pression dans vos artères chute au-dessous de la plage normale. Toutefois, les niveaux de pression artérielle inférieurs à 120 sur 80 peuvent être normaux pour certaines personnes. Votre dispensateur de soins vous dira si vous souffrez d'hypotension artérielle. Comment vérifier ma pression artérielle? Demandez à votre médecin ou autre dispensateur de soins qualifié de vérifier votre pression artérielle. Si vous avez reçu un diagnostic d'hypertension artérielle ou d'autres problèmes de santé connexes, assurez-vous de demander à votre médecin à quelle fréquence votre pression artérielle doit être vérifiée. Que dois-je faire si ma mesure indique une pression artérielle élevée? Si votre pression indique une mesure élevée, vous devriez la mesurer au moins deux autres fois à des jours différents afin de vérifier si elle est toujours élevée. Consignez chaque mesure de votre pression artérielle sur une carte portefeuille de pression artérielle ou application. Ce suivi vous aidera à déterminer si votre pression artérielle est saine. Que puis-je faire pour contrôler ma pression artérielle? L'hypertension artérielle peut être causée par de nombreux facteurs. Certains de ces facteurs de risque échappent à votre contrôle, comme l'âge, l'origine ethnique et le sexe. D'autres facteurs, comme l'alimentation, l'activité physique et le tabagisme, peuvent être modifiés en améliorant ces modes de vie afin de réduire les risques d'hypertension artérielle. Dès l'âge de 65 ans, les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir d'hypertension artérielle. Au cours de leur vie, des facteurs comme la contraception, la grossesse et la ménopause peuvent augmenter leur risque de développer une hypertension artérielle. Vous écoutez « Tension artérielle, aussi appelée hypertension », un texte sans auteur, paru le 31 mai 2023 dans To Go. Voici quelques conseils. Faites vérifier votre pression artérielle régulièrement, telle que recommandée par votre dispensateur de soins. Si votre médecin vous a prescrit des médicaments, prenez-les, tels qu'indiqués. Réduisez votre consommation de sel. On retrouve des sources élevées de sel dans les aliments hautement transformés. Ce type d'aliment comprend les aliments de restauration rapide, malbouffe, les aliments préparés, les viandes transformées comme les saucisses à hot dog et les charcuteries, les soupes en conserve ou déshydratées, les vinaigrettes en bouteille, les sauces en sachet, les condiments et les collations salées. Limitez également la quantité de sel ajouté lors de la cuisson ou à table. Cœur plus AVC recommande de consommer moins de 2300 mg de sodium, soit environ 5 ml ou une cuillère à thé, par jour. Qu'il s'agisse des plats préparés ou du sel que l'on ajoute lors de la préparation des repas et à table. Mangez des aliments à teneur élevée en potassium, comme les légumes et fruits frais, les produits laitiers faibles en gras, les haricots et les lentilles, à moins que vous preniez des médicaments qui interagissent avec le potassium. Adoptez une alimentation saine et équilibrée, faible en sel et en lipides saturés. Obtenez des conseils sur la saine alimentation et renseignez-vous sur le régime DASH, qui peut vous aider à réduire votre pression artérielle, et sur le régime méditerranéen. Soyez physiquement actif pendant au moins 150 minutes par semaine en pratiquant une activité physique aérobique d'intensité modérée à vigoureuse en segments de 10 minutes ou plus. Consultez votre dispensateur de soins avant de commencer un programme d'activité physique. Atteignez et maintenez un poids sain. Si vous avez un surplus de poids, le fait de perdre aussi peu que 5% à 10% de votre poids peut contribuer à réduire votre pression artérielle et votre risque d'AVC ou de crise cardiaque. Vivez sans fumer. Si vous fumez, consultez votre médecin ou dispensateur de soins au sujet de l'abandon du tabagisme. Si vous ne fumez pas, évitez la fumée secondaire. Si vous buvez de l'alcool, modérez. Limitez votre consommation d'alcool. Buvez de petites quantités. Ralentissez le rythme et alternez avec de l'eau en abondance. Trouvez des façons saines de gérer votre stress. Trop de stress peut faire augmenter votre pression artérielle. Selon certaines études, la façon dont vous gérez votre stress est importante. Évitez les mécanismes malsains de gestion du stress comme le tabagisme, la consommation d'alcool, une mauvaise alimentation et la sédentarité, et évitez de passer trop de temps devant un écran. Atténuez-le plutôt par l'activité physique, des activités sociales, la détente et une saine alimentation. Assurez-vous de vous réserver du temps. Obtenez des conseils sur la relaxation et la pleine conscience en profitant de l'expérience de personnes vivant avec une maladie du cœur ou les séquelles d'un AVC. Comment mesurer ma pression artérielle à la maison? La mesure à domicile de la pression artérielle peut aider votre médecin à diagnostiquer l'hypertension artérielle correctement. Certaines personnes ont une pression artérielle plus élevée lors de leur visite chez le médecin. Cependant, alors que ces personnes vaquent à leurs occupations quotidiennes, leur pression artérielle est normale. C'est ce qu'on appelle l'effet blouse blanche. Mesurer régulièrement votre propre pression artérielle peut vous aider à déterminer si vous souffrez d'hypertension. En revanche, d'autres personnes ont une pression artérielle normale lors de leur consultation médicale, alors qu'elle s'élève dans d'autres circonstances. Ce phénomène est connu comme l'hypertension masquée. Si vous avez un risque plus élevé de maladie du cœur ou d'AVC, par exemple si vous souffrez de diabète, il est important de déterminer si vous souffrez d'hypertension masquée. Dans ce cas, il se peut que votre médecin vous demande de faire le suivi de votre pression artérielle à la maison. Il est important de vous assurer que les mesures prises avec votre tensiomètre à domicile sont exactes, afin que votre professionnel de la santé puisse avoir une vue d'ensemble de votre pression artérielle. Comment mesurer votre pression artérielle? Suivez les étapes indiquées ci-après afin d'obtenir la lecture la plus juste possible. Abstenez-vous de fumer ou de boire des boissons contenant de la caféine, café, thé et certaines boissons pour sportifs, 30 minutes avant de prendre votre pression artérielle. Ne mesurez pas votre pression artérielle lorsque vous êtes contrarié ou souffrant. Au besoin, allez à la salle de bain avant la lecture. Asseyez-vous calmement. Les pieds à plat sur le sol, le dos appuyé sur le dossier d'une chaise ou sur une surface ferme pendant au moins 5 minutes avant et pendant la mesure. Utilisez le même bras chaque fois. Enlevez les vêtements encombrants ou serrés de votre bras. Enroulez le brassard du tensiomètre autour du haut de votre bras nu en l'ajustant. Vous devez pouvoir entrer 2 doigts entre le brassard du tensiomètre et votre bras. Le bord du brassard doit se trouver à 3 cm au-dessus de votre coude. Placez votre bras sur une table ou une surface ferme. Le brassard doit se trouver à la hauteur de votre cœur. Ne parlez pas. Et ne regardez pas la télévision durant la mesure. Prenez une mesure de votre pression artérielle et écrivez-la. Apportez la feuille sur laquelle sont inscrites les mesures de votre pression artérielle à votre prochain rendez-vous avec votre médecin ou votre dispensateur de soins. Votre médecin ou votre pharmacien peut vous aider à choisir un moniteur et à trouver la taille de brassard qui vous convient. Cœur plus AVC suggère de choisir un appareil automatisé plutôt que manuel. Si vous souffrez d'arythmie cardiaque, certains appareils pourraient vous être déconseillés. Choisissez un appareil recommandé par Hypertension Canada. Une fois que vous aurez fait l'achat d'un appareil personnel, apportez-le au cabinet de votre médecin 1 ou 2 fois l'an afin de vous assurer qu'il continue de vous donner des lectures fiables. C'était Tension artérielle, aussi appelée hypertension, un texte sans auteur paru le 31 mai 2023 dans To Go. Le choix d'Émilie Monnet. Un texte d'Émilie Monnet, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Danser sur le dos de notre tortue. Léane Betasamozaki-Simpson, traduction Anne-Marie Regimbald, Varia. Danser sur le dos de notre tortue a été une lecture coup de poing pour moi. L'écriture de Léane Simpson est à la fois visionnaire et limpide, et ses idées sont profondément ancrées dans une vision du monde et des principes anishinabés. C'est une référence importante par rapport à la résurgence autochtone. En ces temps troubles que nous vivons actuellement, ce livre nous invite à réfléchir aux concepts philosophiques imbriqués au sein même des mots en Anishinabemowin, tout comme aux enseignements des anciens, afin de mieux pouvoir se projeter dans l'avenir. Je suis ravi que ce livre soit maintenant traduit en français, tout comme « Cartographie de l'amour des coloniales » et « On se perd toujours par accident », publié chez Mémoire d'Encrier. activiste et artiste multidisciplinaire autochtone d'origine Anishinaabe et française, née à Montréal. Émilie Monnet fonde en 2011 les productions Onishka, qui favorisent la collaboration créatrice entre les artistes issus de différents peuples autochtones. On peut lire sa pièce Okinum aux herbes rouges, une expérience immersive en trois langues qui fait place au pouvoir du rêve et de la mémoire sur l'acte de guérison. C'était Le choix d'Émilie Monnet, un texte d'Émilie Monnet, paru le 1er juin 2021 dans le carnet thématique « Je lis autochtone », une initiative de la revue « Les libraires ». Penser autrement la pornographie. Un texte d'André-Louis Paré, paru dans le numéro 134 printemps-été 2023 de la revue Espace Art Actuel. Dans son ouvrage Penser la pornographie, Presse universitaire de France 2023, le philosophe Ruwen Ogyen, 1947-2017, réfute les arguments des pornophobes, qu'ils se disent conservateurs ou progressistes. Tandis que les uns considèrent la pornographie comme une menace pour la cellule familiale et les valeurs traditionnelles qu'elle incarne, les autres critiquent la dégradation des relations humaines qu'elle génère. Ces objections reposent sur une éthique minimale dont un des principes est celui de ne pas nuire à autrui. Selon Ogyen, on devrait considérer inoffensive la production ou la consommation d'images pornographiques pourvu qu'elle ne porte pas préjudice à quiconque. Pour en discuter, il examine attentivement les points de vue des groupes d'individus s'opposant à la pornographie en misant sur une conception substantielle du bien sexuel prétendument inhérente à la nature humaine. Or, cette conception réprouve le droit des personnes adultes de décider de ce qu'elles font de leur propre vie. En tant qu'essai d'éthique appliquée, Penser la pornographie s'immisce dans un débat qui a toujours cours entre ceux et celles qui, au nom de la dignité humaine, désirent réprimer la pornographie et ceux et celles qui, tout en reconnaissant son existence, militent pour une tolérance quant au désir et au goût de chacun, chacune, dans le respect des règles conformes à l'éthique minimaliste. Quatre années plus tard, Ogyen publie « La liberté d'offenser, le sexe, l'art et la morale », La Musardine, 2007, et s'en prend cette fois à la censure dans le domaine de l'expression artistique. Il défend la liberté d'offenser, celle d'exposer des œuvres pouvant choquer dès lors qu'elles ne causent de tort à personne. Certes, les œuvres d'art visuel qui proposent à la vue des images trouvées obscènes peuvent être jugées de mauvais goût et provoquer la répulsion, mais faut-il les bannir pour autant? Pour se prémunir de l'indignation d'un certain public, les musées ou toute autre institution culturelle mettent en place une signalétique mentionnant que des œuvres peuvent brusquer la sensibilité de certaines personnes. Ce fut le cas pour l'exposition Evergone, Théâtre de l'intime, présentée récemment au Musée national des beaux-arts du Québec, alors qu'un espace dédié aux œuvres à caractère sexuel était proposé à un public averti. Dans ces conditions où l'on n'oblige personne à voir ses œuvres, Ogyen plaide pour une acceptation de la représentation de la sexualité dans des lieux publics. Il faut dire cependant qu'avec l'avènement de l'Internet et la multiplication des écrans, la liberté d'offenser se déploie sur un tout autre terrain. Les images dites pornographiques peuvent facilement circuler, et je ne parle pas ici des sites web de l'industrie du sexe qui offrent leurs produits au nom de la culture du divertissement. Sur les réseaux sociaux, la censure d'images confondant trop souvent nudité, érotisme et pornographie s'opère surtout par des algorithmes qui modèrent tant bien que mal le contenu diffusé. Dans le dossier de ce numéro, portant sur l'association entre les arts visuels et la pornographie, Le texte de Jessica Ragazzini rappelle justement le débat entourant les images d'œuvres d'art qui ont été bloquées par Facebook. Son article analyse surtout les stratégies développées par certains musées pour contrer cette censure abusive. Toujours en lien avec la pornographie, les autres titres portent davantage sur la création d'œuvres ou d'actions performatives qui explorent de différentes façons l'univers de la pornographie. Cette incursion artistique peut indisposer certains et certaines lecteurs-lectrices, mais elle participe d'une réalité non négligeable, d'attitudes d'artistes qui, depuis plusieurs années, explorent une autre pornographie alternative, gay, lesbienne, trans, queer, féministe, qui, à n'en pas douter, transforme les pourtours de la pornographie conventionnelle. La pornographie dite commerciale se développe dans le giron d'une économie capitaliste qui s'insère principalement dans une histoire de la sexualité hétéronormative. Son marché a pour but de produire des images d'actes sexuels non simulés pouvant exciter et stimuler le plaisir sexuel masculin. C'est pour contrer cette vision phallocentrique que les textes de ce dossier s'inscrivent au sein d'un mouvement appelé post-pornographie. Le post-porn s'identifie à une panoplie de pratiques minoritaires revendiquant le pouvoir d'assumer son corps sexué en dehors des dictats de l'industrie. Julie Lavigne, historienne de l'art, professeure au département de sexologie de l'Université du Québec à Montréal et autrice du livre « La traversée de la pornographie, politique et érotisme dans l'art féministe », édition du Remue-Ménage 2014, propose à titre de co-directrice de ce dossier une rétrospective de pratiques artistiques qu'elle nomme « autopornographie ». Elle reprend l'histoire des revendications d'artistes dont le genre, l'expression de genre ou la sexualité sont minorisées et par conséquent se détournent d'une pornographie assujettie au pouvoir commercial. Ainsi, contrairement à l'image de la femme objet de l'industrie pornographique, l'autopornographie s'accomplit au sein d'une subjectivité créatrice de soi. Vous écoutez « Pensez autrement la pornographie », un texte d'André-Louis Paré, paru dans le numéro 134 printemps-été 2023 de la revue Espace Art Actuel. C'est également dans ce processus du « souci de soi » où le corps est considéré comme un laboratoire d'expérimentation que s'insère la pratique de l'artiste Arcadie Lavoie-Lachapelle. A.M. Trépanier analyse cette pratique à partir de l'exposition « Masturbation alchimique, les vagues 2022 », dans laquelle la pornographie se détourne de l'hétéropatriarcat pour offrir plutôt des voies de guérison et d'adaptation dans une démarche transformatrice engagée dans un auto-érotisme thérapeutique. Pour sa part, Charlène K. Lowe, dans « Les nouvelles pornographes », rappelle d'abord le débat qui a toujours cours dans le mouvement féministe à propos de la pornographie, mais en vient ensuite à l'analyse des œuvres des artistes Narcisse Sitter et Eiji Shin, qui se réapproprient le langage transgressif et polémique de la pornographie. De son côté, Peter Dubé explore la genèse du désir gay à travers notamment les pratiques d'artistes de Tom of Finland, Paul Berlin et Evergon. Ce désir homosexuel a beau être soutenu par l'industrie pornographique, ces artistes s'inspirent plutôt d'une iconographie évoquant souvent la mythologie, laquelle invite à une réflexion sur le pouvoir générateur d'identités particulières. Malgré le contexte culturel très différent, Mayouk Barua rencontre également du désir sexuel gay à partir de l'œuvre « An Old Man » 1995 de l'artiste indien Bhupen Kakkar 1934-2003. Son analyse perspicace de l'œuvre de cet artiste nous conduit d'abord à une réflexion concernant l'aspect excessif que l'on prête au désir homosexuel marginalisé, mais aussi à un questionnement sur l'érotisme qui se dégage de cette œuvre. L'artiste Emma Kate Guimond propose quant à elle une analyse de la performance de Michael Martini inspirée du conte Hansel et Gretel des frères Grimm. Elle se penche sur cette performance en parallèle avec les actions performatives de l'artiste Karen Finley, souvent provocantes et impudiques. Ces actions constituaient des réactions à la violence sexuelle et à l'humiliation des femmes au sein d'un régime patriarcal. C'est aussi le cas pour l'artiste chilienne Maria Bazura, dont nous entretient Claire La Huerta. Le film « Fuck the Fascism » rassemble une série d'actions dans laquelle l'artiste et ses complices affrontent avec une brutalité fascinante les vestiges colonialistes afin de contrer une obscénité néolibérale qui détruit les individus les plus marginalisés. Enfin, dans la section « Essai », le photographe vancouverois Stephen Odia témoigne de son expérience personnelle l'ayant amené à fonder Studio X, une entreprise consacrée à magnifier le corps humain, notamment celui des travailleurs et travailleuses du sexe. C'était « Penser autrement la pornographie », un texte d'André-Louis Paré, paru dans le numéro 134 printemps-été 2023 de la revue Espace Art Actuel.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayé et André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.